Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi comme chaque lundi soir de vous retrouver. Alors on va encore justifier qu'on est une émission complètement omnisport parce que oui, ce soir on va parler de course de chien de traîneau. On peut effectivement habiter Paris et l'Île-de-France et pratiquer ce sport. On va donc en avoir la démonstration et la preuve ce soir avec nos invités. Je vais saluer d'abord Patrick Maurice. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
Ça va, bonne forme?
Oui, très
alors,
bien.
Parlez-nous super. Un peu de vos fonctions dans... Vous êtes président d'un club, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je suis président du club de Poulka et Traîneau à Chien d'Île-de-France.
Oui, c'est le seul club?
Comment?
C'est le seul club?
Non, ce n'est pas le seul club, bien sûr. Il y a, nous, dans notre fédération, nous avons 18 clubs.
Ah, vous voyez, c'est bien. Ouais. C'est bien. Alors, très brièvement, donc on aura l'occasion de le savoir un peu plus, mais très vite, pourquoi les chiens de traîneau? C'est venu comment cette passion?
Pourquoi les chiens de traîneau? Parce que j'ai toujours eu des chiens déjà, et ensuite j'ai croisé il y a 41 ans un husky. À l'époque, on n'en voyait pas, donc coup de foudre. Et mes voisins, en fait, étaient parmi les premiers mushers français. Voilà, donc on a eu notre première chienne, et puis ça enchaînait, deuxième chien, troisième chien, quatrième chien, etc. Voilà. Et voilà.
Et c'était parti pour une belle aventure.
Et 40 ans après, on est toujours là.
Très bien. Alors avec vous aussi, bien une référence dans le milieu, Jean Combazard. Bonsoir Jean. J'allais dire l'homme à tout faire, musher, mais aussi directeur technique.
Bonsoir, effectivement, l'homme à tout faire, directeur technique fédéral pour la fédération, musher, éleveur, préparateur de chiens, voilà, mais tout ça bénévolement.
Oui, bien sûr, bah oui. Très bien, donc, et puis je veux saluer Vanessa, ça va Vanessa?
Très bien, Philippe.
Ouais. Bon, on reviendra sur le meeting indoor de Paris-Bercy.
Oui, auquel on était la semaine dernière.
Oui, à Paris, à travers une série d'interviews et puis quelques résultats. Et puis on parlera aussi de l'omnisport après la pachou de notre ami Stéphane Desenclos, avec celui qui a retrouvé sa voix, il a pris beaucoup de fond, ça va mieux. Salut Alexandre, ça va?
Ça va, je suis encore un peu malade, mais ça va.
Bon,
ça
c'est
va.
Pas grave, ça va,
je vais pouvoir bien vous dire le journal des sports tout à l'heure.
Voilà, très bien. Allez, on va commencer donc dans le vif du sujet. On va rentrer. Où sont les chiens? J'ai pas vu les chiens.
Ah, ils sont pas loin, les chiens. Ouais. Les chiens, ils sont à quoi? Ils sont à 80 km d'ici. Là.
Ouais. Alors, bon, les chiens, quand on parle de chiens de traîneau, c'est essentiellement des huskies.
Non. Alors non, c'est pas essentiellement des huskies. Il y a plusieurs, types de chiens. Non, il y a plusieurs types de chiens. Il y a le chien de race nordique. Oui. Donc il y a 6 races de chiens nordiques reconnues par la Société Centrale Canine et puis la FFCI. Et après derrière, en compétition, sur certaines courses, on peut rencontrer des chiens qui sont fabriqués pour courir.
Oui,
c'est-à-dire c'est des mélanges de chiens. Donc
c'est un peu comme les chevaux, les étalons quoi.
Bah,
on produit des étalons aux chiens.
Ouais,
pour
mais enfin,
la course.
Ouais, mais dans le chien, le problème qu'il y a, c'est que dans le chien, les races de chiens nordiques, elles doivent être conformes à un standard. Donc respecter des tailles, des poids, des chiens doivent être parfaits, pas de défaut de port de queue, dentition complète, enfin bon bref, plein de choses. Contrairement à ces autres chiens qui sont fabriqués pour courir, où ce sont c'est des machines de guerre, de manière.
Ouais,
hein,
ça. Ça, et ça, dès le début, on peut le percevoir?
Percevoir, c'est-à-dire
dès la naissance du chien, on peut percevoir que lui sera différent, il ira courir, pas les autres.
Non, après derrière ça se perçoit pas, mais après derrière quand on fait de la sélection comme moi j'ai pu en faire, parce que l'histoire de mon attelage, c'est ma première chienne et dans tous les pédigrés de tous mes chiens on retrouve cette chienne. Moi c'est une sélection que j'ai faite, mais tous les chiens ne sont pas les mêmes. Il n'y en a aucun d'identique.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui
vont avoir,
on va dire, allez, un QI hyper développé. On va en faire des super chiens de tête. Après, il y a des chiens qui vont être beaucoup plus costauds. Donc, on les mettra derrière parce qu'on a besoin de puissance.
Il y a des caractériels aussi.
Derrière, il y a des chiens, comme je dis tout le temps, sur une portée, on peut avoir un chien super intelligent. Et puis un qui va, entre guillemets, pas avoir de cerveau et puis qui va être que bon à tirer, c'est tout ce qu'il va faire le chien. Mais bon, après derrière, il faut tout pour faire un très bon attelage, il faut de tout.
Et ça, c'est le rôle, c'est le vôtre.
Ah bah c'est,
de savoir
c'est...
composer avec tous ces...
C'est ça, mais bon, moi la chance que j'ai, c'est que les chiens naissent à la maison. Donc on voit leur développement, on voit leur caractère, on voit leur tempérament, on a plein de choses que quand on achète un chien, ben on achète un chien, c'est un coup de poker. Hein. Même si la génétique est bonne au niveau des parents, c'est pas sûr que le chien, ça va être un crack. Hein.
Bah, c'est comme ses enfants. C'est pareil. On n'a aucune certitude.
Non, c'est ça.
Même si on donne tout, mais enfin, c'est bon, ça. Voilà. Ouais. Et les chiens, donc, vous en avez combien?
Là, actuellement, avec les retraités, j'en ai 20.
20
et donc 13, entre 13 et 14 corps opérationnels en compétition.
C'est ça. Et ça dure combien de temps, une compétition pour un chien? Une durée moyenne, 10 ans, 15 ans?
Alors, ça va dépendre des chiens. Ça va dépendre des chiens. Là, j'ai une chienne qui, potentiellement, qui va sur 12 ans. Et suite à la blessure d'un chien, juste avant la gondodie CVVF, cette chienne-là pouvait rentrer dans l'attelage des 12. Et vu la météo, que les pistes allaient être très dures, c'est une chienne que j'ai pas mise. Pourquoi? Parce que les pistes étant très dures, ça va être des pistes très rapides. Si on avait eu des neiges plus lourdes ou des neiges molles, elle serait rentrée dans l'équipe de 12 pour la Grande Odyssée VVF 2025.
Et les chiens qui partent en retraite, vous les gardez ou vous les vendez ou...
Alors chez moi c'est plutôt sentimental parce que j'ai jusqu'à 35 chiens à la maison. Maintenant il en reste 20, mais pourquoi 20? Parce que on va pas tarder à arrêter. On continue avec les chiens qui sont compétitifs aujourd'hui. Et quand ceux-là auront vieilli, je renouvelle pas, c'est terminé, parce qu'un chien, ça, comme je dis, c'est vivant. Le chien court pour nous. Il se fait plaisir pour courir, mais bien souvent, le chien court pour nous. C'est à nous de savoir l'arrêter, le chien, au moment où il faut. Parce qu'ils vont au-delà de leur capacité. Et pour moi, ça se termine. Pour ça que là, maintenant, il n'y en a plus que 20, il n'y aura plus de jeunes. Ça se donne pas en héritage.
Non, c'est pas sûr.
Un vélo, c'est pas une mobilette.
Comme je dis,
c'est du vivant, c'est du vivant. Donc
c'est
ça, c'est de l'humain. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, étant donné qu'on considère le chien comme un meuble en France, mais pas moi, pas chez nous.
C'est des attaches de 12, obligatoirement, dans votre sport?
Non. Il y a plusieurs types de compétitions. Je veux dire qu'il y a, le Graal avec le haut niveau qui va être effectivement ce que moi je peux faire. Mais des gens comme moi, il n'y en a pas énormément. Ce qu'il faut voir, c'est pour devenir comme moi, il en faut beaucoup avant. Et le beaucoup d'avant, c'est des gens qui vont avoir un ou deux chiens, qui vont faire de la canirando, qui vont faire du vélo, qui vont faire un petit peu de traîneau. Après, il y a ceux qui vont en avoir un petit peu plus, qui vont avoir 3-4 chiens, qui vont pouvoir faire courir dans les catégories 3-4 chiens, où là déjà, c'est plus difficile. Il y a une technique à avoir, il y a du matériel à avoir.
Oui, bien sûr.
Contrairement à quand on a deux chiens, un vélo, que tout le monde a un vélo à la maison presque, ou alors ou une paire de baskets, donc ils ne vont pas les courir avec. Et après, plus on monte dans les catégories, plus ça devient compliqué, je dirais, pour vivre comme tout le monde.
Qu'est-ce qu'ils mangent, les chiens?
Alors, chez moi, les chiens mangent des croquettes.
Que des croquettes?
Que des croquettes.
Contrairement aux idées reçues.
Alors, que des croquettes en fonction de la saison, en fonction de la température, en fonction des efforts demandés. En été, les chiens vont avoir une nourriture qui sera quand même moins riche par rapport aux nourritures qu'on leur donne en pleine compétition. Quand on est en préparation, on change déjà de croquettes au mois de septembre quand on commence la préparation pour donner des croquettes pour des efforts brefs. Et puis, plus on va dans la saison, plus c'est pour des efforts longs. Donc, il y a beaucoup de matière grasse. Et puis après, pour l'hydratation, étant donné que le chien n'est pas comme nous, nous, on sait qu'on va s'entraîner. Donc, on sait qu'il faut s'hydrater avant, qu'il faut manger, qu'il faut faire... Le chien, lui, ne sait pas. Donc c'est à nous d'apporter ce qu'il faut, donc bah, par un peu de viande, un peu de poisson mélangé à l'eau ou autre, pour pouvoir les faire boire, pour les hydrater, pour qu'ils soient en super forme.
Il y a bien des petites récompenses, si c'est bien entraîné ou qu'il a bien couru.
Ah mais il y a toujours des petits trucs.
C'est quoi la petite gourmandise, c'est quoi?
Chez nous, c'est du saucisson.
Ouais.
Du saucisson adapté pour les chiens, voilà. Donc, c'est ce que je donne aussi en snack quand je suis en course, quand sur des grosses étapes.
Mmh. Alors, il paraît que les chiens ont chacun a une position dans l'attelage. Il y a les leaders naturels, il y a les autres.
Oui, alors il y a plus. Oui, dans l'attelage, effectivement, il y a des chiens. Tout dépend de la grandeur de l'attelage. Quand on a deux chiens,
Y en a 12, par exemple.
Ah bah quand il y en a 12, il y a les chiens de tête qui sont franchement des chiens. Il faut que ce soit le moteur de l'attelage parce que le chien de tête c'est un chien qui doit avoir des aptitudes exceptionnelles. C'est un chien qui doit être à l'écoute. Un chien qui va garder de l'envie en permanence. C'est lui qui va donner le rythme à l'attelage. Contrairement aux autres, les autres vont essayer de le rattraper ce chien-là. C'est ça qui fait aller les autres vite. Donc là, les chiens qui sont devant, c'est des chiens hors normes. Et puis après, bah, plus on va vers l'arrière, plus on a des chiens puissants. Parce que c'est eux qui emmènent et qui tractent l'attelage. Et après, derrière, il ne faut pas confondre un chien de tête avec un chef de entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un chef de meute. Oui. La hiérarchie qu'il y a à la maison.
Oui, le chef de meute, c'est le capitaine, quoi, c'est ça?
Parce que des fois, le chef de meute, ça peut être un retraité.
Pour l'ensemble de son œuvre.
Ça peut très bien être un retraité qui soit le patron pour respecter la hiérarchie dans toute l'équipe quand ils sont en liberté dans le parc.
Alors, naturellement, ce sont des sportifs de haut niveau, hein, comme les chevaux. Et puis, il y a cette complicité entre le musher, comme il y a cette complicité entre le cavalier et puis son cheval.
Oui, bien sûr, il y a une grosse complicité. Et puis, c'est vrai que ce sont des athlètes de haut niveau. Bon, après, derrière, chez nous, ça fonctionne. Moi, je dirais que je vais être le préparateur physique des chiens. J'ai Jocelyne, mon épouse, qui va être dans tous les soins. Après, derrière, j'ai Amélie, qui est ostéo, qui vient voir régulièrement les chiens, qui gère les chiens. Et puis, j'ai Aude, la vétérinaire des chiens, dès qu'il y a un petit bobo ou autre qui intervient tout de suite, qui est spécialisée. Donc, je dirais que là-dessus, oui, c'est une grosse équipe. Et sans cette grosse équipe-là, c'est impossible à avoir les résultats qu'on a pu avoir sur les grands lycées VVF, comme sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe.
Combien de kilomètres ils font les chiens par semaine ? Pour être, au top.
Alors, ça dépend ce qu'on vise comme type d'épreuve. Si on vise du sprint, c'est pas la peine de faire énormément de kilomètres. Ça va être la régularité des entraînements et le type d'entraînement que l'on va faire. Après, derrière, si on vise de la moyenne distance et des courses à étapes, là, par contre, ça va être beaucoup plus intense avec des étapes, des entraînements un petit peu plus longs. Moi, pour vous dire un petit peu la préparation des chiens là, pour cet hiver, les chiens, depuis septembre jusqu'au départ du 11 janvier sur la Grande Odyssée, les chiens ont eu 115 jours d'entraînement. Et au mois de novembre, sur les 30 jours, les chiens ont eu 27 jours d'entraînement au mois de novembre, donc quasiment aucun jour de repos.
Combien de kilomètres ?
Et donc les chiens sont partis sur la Grande Odyssée en tout sur 1300. Ils avaient entre 1360 kilomètres quasiment de préparation. Et le plus gros entraînement que l'on ait fait, c'est un entraînement de 32 kilomètres. Qu'on a fait, c'est 32 km le maximum que j'ai fait cette année.
Ouais. Et les
chiens sont capables de faire des étapes, comme sur la Grande Odyssée VVF, des étapes de 47 à 50 km sans aucun problème.
Ouais, c'est ça, on en parlait hors antenne.
C'est la préparation physique.
Plus il y a de la distance, mieux ils sont.
Le husky, c'est un chien quand même particulier parce que c'est un chien qui n'est jamais à fond. Contrairement aux autres chiens qui sont croisés où eux sont à fond en permanence et au bout d'un certain nombre de kilomètres, quand il y a panne d'essence, il y a panne d'essence. Ouais. Que le husky qui lui n'est jamais à fond, parce que c'est un chien qui se régule.
Ah, d'accord.
Donc c'est pour ça que pour les faire évoluer, il y a beaucoup de travail à l'entraînement en préparation où il faut jouer avec le chien. C'est amusant d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un chien qui est magique, parce qu'on joue avec. Et donc, les chiens sont capables d'encaisser des distances. Là, la Grande Odyssée VVF, la plus grosse étape, c'est une étape sur deux jours qui fait 80 km. Ils ont fait ça...
En combien de temps ? Parce que quelle vitesse ils...
Alors, la vitesse...
Ils atteignent quelle pointe ?
La vitesse varie énormément parce qu'on est sur des profils. Ouais, il y a du profil alpin, il y a du dénivelé. Il y a, bon, la gondolie CVVF, je dirais que c'est une étape... on a fait 430 km cette année. Sur les 12 jours, on a fait 12 000 mètres de dénivelé positif. Et moi, pour ma part, je les ai courus à 19 de moyenne. Mmh. Et avec des étapes où il y a des certaines étapes, on a tourné à plus de 24. J'ai fait des pointes, une pointe sur la première étape sur Megève, j'ai fait une pointe à 41,6 de moyenne. Une pointe de vitesse. Et le kilomètre le plus rapide, on l'a fait à 36,6 de moyenne, le kilomètre le plus rapide. Parce que maintenant, on a des GPS qui nous donnent des données et tout. Donc, c'est plutôt magique.
Alexandre, c'est plus vite que toi à vélo.
Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est... Mais j'avais une question, je ne sais pas si tu allais en parler peut-être après, mais est-ce qu'il y a des accidents souvent ou pas ?
Ouais, j'allais en parler, mais vas-y, c'est pas grave.
Des accidents, moi, pour ma part, en 2000, sur une piste verglacée, mais bon, on n'avait pas le matériel actuel. On était encore avec des traîneaux en bois et autres, c'était des trucs où on se défonçait les épaules pour réussir à les faire tourner. Bah, je me suis fait une cheville. Voilà, et puis bon, après derrière les accidents, il n'y en a pas énormément. Après derrière, quand il y a des accidents, les chiens, c'est comme tout sportif, il peut y avoir des entorses, peut y avoir des courbatures, peut y avoir des contractures. C'est pour ça qu'il y a toute une équipe. C'est pour ça que je dis qu'il y a une équipe, il y a l'ostéo qui est en permanence avec nous sur les courses, Veto, mon épouse qui gère, Jocelyne qui gère les chiens. Voilà, c'est une équipe, c'est un ensemble qui fait que... Mais il peut y avoir toujours des petits traumatismes. Okay. Moi, cette année, là, sur la grande ICVVF, cette année, le dernier jour, j'aurais pu mettre les 12 chiens. Mm-hmm. Les 12 chiens étaient au top. Mm-hmm. Aucune blessure cette année. Mm-hmm. Bon, c'est vrai qu'on a eu des pistes excellentes. Mm-hmm. Parce que ce qui arrive quand il y a des traumas sur les chiens ou autres, c'est quand les pistes sont un peu poudreuses, molles ou autres, où il y a des enfoncements, où les chiens peuvent... Si la piste est mal travaillée, les chiens, des fois, des moments, ça va être dur, et puis d'un seul coup, ça va être mou, les chiens vont s'enfoncer. Et puis après, c'est au musher aussi de gérer ses chiens. Oui. Moi, je suis sûr que... Là, j'ai parlé de vitesse de pointe que j'ai pu faire, mais je ne les ai pas fait en descente. Hein. Je pense que je suis l'un des mushers français, ou au monde peut-être, à descendre le plus doucement. Moi, mes chiens en descente, je les ralentis, les chiens. Parce que je ne veux pas qu'ils se défoncent les épaules. Mmh. Parce qu'un chien qui s'abîme une épaule, c'est un chien qui est foutu. Sa carrière, elle est foutue. Hein. Sa carrière est foutue. Parce qu'il aura toujours de l'appréhension après le chien. Mmh. Donc, je dois être un des mushers qui descend le moins vite. Mais par contre, après, sur le plat, sur les montées et tout, il faut lâcher les freins.
Justement, le musher, c'est vous.
Ouais.
Ça demande un entraînement aussi.
Bah oui.
Hein, comme un sportif.
Bah, ouais.
Il y a du footing, il y a quoi ? Il y a une préparation physique.
Alors,
on fait. Attention, je vous cacherai, à ce qu'on mange.
Je vous cacherai pas que quand je visais des titres mondiaux et toutes ces choses-là, moi je me préparais comme un coureur de 400 ou de 800.
Oui.
Un coureur de 400 ou 800 parce qu'on ne court pas en permanence.
Oui.
On donne de l'effort à certains moments. Mm-hmm. Donc comme on dit que faut être barjo pour faire du demi-fond, bah voilà, je me préparais comme un demi-fondeur.
Ouais. Et puis, y a le froid aussi, la météo qu'il faut affronter.
Ouais, le froid, la météo, mais je dirais que vu qu'on est en action, on n'a pas spécialement froid. Là où on peut prendre froid, ça va être éventuellement dans les descentes.
Mmh. C'est quoi l'équipement bien couvert obligatoire ? C'est quoi ?
L'équipement bien couvert obligatoire, il y en a pas. Hein. C'est un peu chacun en fonction.
Ah bon ? D'accord.
Non, il n'y a pas de matériel obligatoire. Il y a un matériel obligatoire à avoir dans le traîneau en cas de grand froid ou n'importe à se couvrir. Oui. Mais autrement, chacun part avec ce qu'il veut.
Si on veut partir sans gants, on part sans gants. Sur la neige, oui.
Sur terre, non. Sur terre, il y a des réglementations où il y a le casque qui est obligatoire, les gants sont obligatoires, il y a plein de choses obligatoires sur terre. Mais sur neige, c'est différent. Bah, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, je sais qu'en fonction de la météo, c'est la météo qui va me guider sur ce que je vais mettre sur moi. Oui. Et la durée de l'étape et le profil de l'étape.
Mmh, bien sûr.
Parce que si c'est un profil hyper alpin où on va courir énormément, bah on va s'habiller léger.
Mmh. Alors, on parlait des chiens, on parlait de vous, mais il y a aussi le traîneau.
Oui.
C'est lourd.
Ça
a beaucoup bougé le matériel ?
Oui, ça a énormément bougé. Le traîneau, sans les ancres à neige, c'est un traîneau qui fait 11 kilos.
Ah oui ?
11 kilos, donc, plus ces ancres à neige, il fait entre 13 et 14 kilos avec les ancres à neige qui sont en alu. Donc voilà, le traîneau ne pèse pas tellement lourd.
Oui.
Et puis, vu que j'entraîne les chiens en Seine-et-Marne, il n'y a pas beaucoup de dénivelé.
Oui.
Bah, les chiens, ils ont un quad qui fait 420 kg derrière eux pour, pour compenser le dénivelé et la force.
Ouais, parce qu'on va rappeler, vous m'entraînez dans les champs, hein, quand c'est on ça. Est en Île-de-France.
C'est ça, j'ai même eu un surnom un temps, on m'appelle Betravier.
Bon, vous parliez de bénévolat, ça a un coût tout ça, entre le traîneau et les chiens.
Ah bah, il n'y a pas que le traîneau et les chiens.
Les déplacements.
Il y a les déplacements, il y a les suivis vétérinaires,
la nourriture,
il y a les structures qu'il faut avoir à la maison, le matériel pour transporter les chiens, parce que ça ne se transporte pas comme ça.
Vous avez quoi, un gros camion?
J'ai un camion. On a un camion et une caravane qui suit le camion.
Bon, ça, c'est un budget de 20 000, 25 000 à peu près par an.
Ouais, grosso modo, je dirais que c'est pour des grands attelages. Attention, hein, pas pour celui qui va courir en deux chiens ou en quatre chiens, hein, c'est démultiplié. Hein, mais nous, puissance 10, là, ouais, on est sur des saisons. Quand la saison est bonne, quand il n'y a pas trop de soucis, c'est 20 000, ouais.
Patrick, alors, on parlait des clubs. Oui. Donc, il y en a quand même plus qu'on ne le pensait en Île-de-France. Hein.
Oui, bah, en Île-de-France, il y a deux clubs. C'est tout. Enfin, il y a nous deux.
Oui. C'est-à-dire et puis, devant le micro.
Et Karen, oui, ça fait trois maintenant, effectivement, depuis cette année.
Ah oui. Ouais. Alors,
trois clubs en Île-de-France. Ouais. Donc voilà, donc ça représente, allez, on va dire 70-80 licenciés.
Oui, une petite centaine.
Ils sont où ces clubs en Seine-et-Marne?
Alors, il y en a un en Seine-et-Marne, il y en a un dans l'Essonne et un dans les Yvelines.
Ah d'accord,
un dans les Yvelines.
Oui, d'accord.
Voilà. Et on organise des cours. On a la chance à la fédération d'avoir 18 clubs, et 18 clubs qui travaillent beaucoup pour organiser des courses, des compétitions. En Île-de-France, on organise trois courses.
Ah, il y a quand même des compétitions.
Hors neige, hein, bien sûr.
En Île-de-France, oui, non, mais je m'en doute. Voilà. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les endroits où il y a de la neige.
Non, bah, de toute façon, vous avez les entraînements qui démarrent, comme le disait Jean, à partir, on va dire, les septembre-octobre. Voilà, ça monte en puissance jusqu'à décembre pour arriver à peu près au top pour la saison neige. Donc, pour arriver à cette préparation, on organise des courses au moins, on va dire, à partir d'octobre jusqu'à mi-décembre. D'accord. Le championnat de France sur Terre, il y a un championnat de France sur Terre, a lieu mi-décembre. Oui. Voilà. Ouais.
Et les compétitions en Île-de-France, ce sont les endroits les plus favorables où ? En Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans les Yvelines ?
Partout. On a la chance en Île-de-France d'avoir, contrairement à beaucoup d'autres régions, le choix sur... Il y a beaucoup de chemins, beaucoup d'endroits variés, etc. Ouais. Avec du dénivelé. Jean n'a pas trop par chez lui, mais par chez moi, il y en a pas mal. Je m'approche plus du Vexin.
Ah, d'accord.
Voilà. Ouais. Donc, on a possibilité de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'endroits merveilleux pour organiser des courses. Mm-hmm. Donc, on organise, nous, par exemple, avec le club, une course en forêt de plaisir, la forêt de Sainte-Apolline, qui est une forêt départementale.
Ah,
oui,
dans le 78.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais.
Et il faut des autorisations particulières, spéciales, comme pour la course à pied ou comme pour le vélo?
Ah bah, bien sûr, on a tout un tas d'autorisations à demander. Hein. On passe par la préfecture. Tout dépend à qui appartient le terrain, si c'est municipal, si c'est départemental, régional, etc. Mmh. Voilà, après, on a aussi les services vétérinaires à informer, faire les demandes d'autorisation. Ah oui, y a pas mal de boulot en amont pour organiser une course. Mmh. Après, on est super content de faire notre course.
Oui, alors, je sais que vous êtes aussi, vous faites des démonstrations. Mmh. Dans une précédente vie, on s'était vu du côté de Saint-Arnoult.
Voilà, c'est ça.
En Yvelines, là-bas.
En Yvelines, tout à fait.
Vous étiez venu pour un téléthon, je crois.
C'est ça,
j'avais fait un petit direct. Ouais.
Mais on fait pas mal de... On fait aussi ça, c'est-à-dire on travaille... Enfin, on ne travaille pas, d'ailleurs. On participe à des animations avec des enfants qui ont des petits soucis, des choses comme ça.
Alors, justement, on en parlait hors antenne. Il y a aussi l'handisport.
Il y a le parasport, effectivement.
Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que ça peut paraître incroyable pour le grand public, ces traîneaux là, de 11 kilos.
Non, mais la fédération travaille déjà depuis de nombreuses années. On a été les premiers à faire du sport adapté pour des jeunes, mais bon, qui pouvaient se débrouiller un petit peu seuls, qui partaient seuls. Et puis là, moi, depuis plusieurs années, quand j'étais encore en activité avant ma retraite, je travaillais pour un grand groupe de restauration. Et puis le midi, quand j'ai fini ma carrière, j'ai joué le midi, des gars qui partaient avec une joëlette. Alors une jolette, c'est un petit chariot avec un roulette où il y a des coureurs qui courent autour. Et puis bah, moi, je suis parti courir avec eux. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi on ne mettrait pas deux chiens devant ? Donc on est parti comme ça, on a mis deux chiens devant la géolette. Et puis depuis maintenant, au niveau de la fédération, il y a un règlement comme quoi on peut faire des compétitions donc justement avec ces géolettes. Et puis on travaille avec des jeunes de Bondy là, du secteur qui viennent pour courir, pour accompagner les personnes en situation de handicap. Les mushers qui le veulent bien, parce qu'on a une catégorie de chiens vétérans maintenant au sein de la fédération. Et donc, plutôt que les chiens courent avec leur maître, eh ben, on les met à la on met les chiens sur la géolette et les chiens tractent la géolette. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur Terre. Après, derrière, il y a la géolette trois roues qui est beaucoup plus intéressante pour la personne en situation de handicap, parce que si la personne est encore mobile, elle peut pousser comme sur un chariot, pousser comme sur un fauteuil, avec deux chiens devant et puis une personne derrière pour assurer la sécurité. Après, ça peut être en carte, en fonction d'eux, parce que on a un copain là, du club du Forge Arctic Team qui a eu un accident de moto il y a quelques années, qui lui avait des chiens. Et donc, pour continuer son activité, il a un chariot à quatre roues maintenant, et où au niveau du guidon, à la place du guidon, c'est un pédalier qu'il a. Et naturellement, pour des règles de sécurité, il est suivi par quelqu'un en vélo. Et puis après, quand on est sur neige, on a ce qu'on appelle les courses en tandem.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on court sur neige avec 6-8 chiens devant et puis une personne en situation de handicap dans le traîneau. Alors, naturellement, en fonction du handicap, si la personne peut aider. Moi, je sais que j'ai Lucas qui est avec moi depuis maintenant 5 ans. Lui, il a de la mobilité au niveau des bras. Il a des bâtons de ski, des petits bâtons de ski aux mains. Et puis, quand on est dans les difficultés, quand ça monte, et il pousse, tac, comme ça. En même temps, ils sont actifs. Ils sont actifs. Et donc, si on perd, comme Lucas, c'est un compétiteur, la dernière fois, on a perdu, il faisait la grimace. Mais j'ai fait, fallait pousser plus vite. Il n'y a pas que les chiens. Faut pousser. Donc c'est bien parce que ça met. Voilà, donc on a mis ça en place au sein de la fédération. Et ça fonctionne pas mal.
Oui. Vanessa, toi qui aimes le froid, ça t'inspire un commentaire ?
Ces chiens, ils sont impressionnants. Et puis, je trouve ça bien qu'on puisse l'ouvrir, évidemment, un peu à tout le monde.
Oui.
Ouais. Alors, je me demandais, quel conseil vous donneriez à un débutant qui veut s'initier peut-être aux cours de chiens de traîneau ?
Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que généralement, je prends toujours comme exemple le gars qui est dans son fauteuil et qui regarde un match de foot avec les copains.
Oui.
Ils prennent le pot de Nutella, ils en prennent une cuillère. Et puis finalement, arrivé à la mi-temps, ils ont fini le pot, ils attaquent le deuxième pot, ils passent au pot de 500 grammes. Ouais. Et le chien, c'est un peu ça. Quand on commence, on ne sait pas quand on va s'arrêter. C'est une telle passion que le plus compliqué, c'est de s'arrêter. Ouais.
Il y a des initiations qu'on peut faire. Par exemple, moi, si j'ai envie de faire un test demain, comment je fais ?
Alors malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ça, c'est compliqué, ça. Okay. Ça c'est compliqué, pourquoi ? Parce que les propriétaires de chiens veulent bien prêter leur chien, mais ce sont leurs chiens, il n'y a pas un cheptel, c'est pas comme dans un club cycliste peut-être, ou à la patinoire, si on veut faire du patinage artistique ou du hockey, ils vont peut-être prêter un équipement, que nous voilà. Après derrière, si une personne vient avec son chien ou ses chiens pour prêter du matériel au départ, pour avoir des conseils. Et là, on est là pour les accompagner. Mais après, derrière, c'est vrai que c'est difficile de prêter des chiens parce que on prête des chiens. Et bien souvent, ce qui peut arriver, c'est que quand même, nos pistes d'entraînement, ce sont des pistes qui sont ouvertes à tout le monde. On peut croiser des cavaliers, on peut croiser des gens qui sont en train de promener avec un chien ou alors des chiens en liberté. Il y a toutes ces choses-là. Donc, il faut que les gens soient maîtres des chiens quand même. Il y a quand même une certaine... Après, ce qu'on peut faire, c'est emmener du monde avec nous. On part avec, on peut les accompagner. Mais de là de dire « oui, je vais faire de la course de chien de traîneau », non, c'est pas possible.
C'était ce que vous faisiez sur Saint-Arnoult,
c'est ça.
Au Téléthon. Hein.
Après, on peut faire effectivement, partir. De temps en temps, nous, on le fait, mais je sais pas si on prête un chien avec un vélo, mais on suit avec l'attelage. c'est ça. Mais on ne prête pas de chien que la personne va ramener chez elle.
Non, mais ça semble logique. Ouais,
c'est voilà.
Et les jeunes des écoles, ils viennent des fois ? Il y a des curieux ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah, y a plein de curieux à partir du moment. De toute façon, à partir du moment où c'est avec des chiens de traîneau quelque part, il y a,
Bah
beaucoup
de curieux. Fatalement, ça fascine.
C'est, voilà, c'est ça. C'est... Et on fait des animations à droite à gauche, on présente dans des écoles, dans des pour diverses raisons. Enfin bon, on nous demande toujours qu'est-ce que vous pouvez faire quand pour une animation, qu'est-ce que vous pouvez faire. Bah, écoutez, nous on peut venir avec nos chiens faire. Par exemple, on est transporteur officiel du Père Noël, vous voyez, en décembre.
Oui, il faut aller en Finlande là-bas.
On promène.
Il faut aller en Finlande quand même. Hein. Oui,
voilà, nous, on a le vrai. on promène le Père Noël, on promène quelques enfants.
Mimi, là-bas.
Mais ouais. à la fin, les enfants, mais les parents aussi, il ne faut pas croire. Mm-hmm. Oui, ce qu'ils veulent, c'est avoir le chien dans les bras et. Mm-hmm.
Et le Père Noël, il est de côté de Père Noël.
Et voilà, le Père Noël est assis dans son fauteuil.
Ça, je l'ai vu, ça. C'est du vécu.
Alors, ça tombe très bien, parce que si on veut venir vous rejoindre, comment on fait ? Si aujourd'hui, là, il y a des vocations qui... Donc, ouais. Après cette émission, si les gens veulent venir vous rejoindre, que font-ils ?
Alors, si ce sont... Alors, la meilleure façon de, comment dirais-je, de rejoindre des clubs, c'est d'aller sur le site de la fédération,
oui.
FFPTC. Voilà. Là, vous avez, suivant les régions, les différents clubs. Mm-hmm. Et puis ensuite, contacter ces clubs.
Oui.
Voilà, il n'y a aucun problème. Nous, on accueille beaucoup de monde les week-ends.
Quel est le prix de la cotisation ou de la licence ?
Pour mon club, bien sûr. Pour mon club, c'est 35 euros par an.
Ça va.
L'inscription.
Ouais.
Enfin, je commence maintenant.
Ouais. 35 euros par an. La deuxième personne, c'est gratuit. Les enfants, c'est gratuit.
Oui. D'accord.
On n'est pas là pour bombarder les. Voilà, c'est ça.
Ouais.
On essaie de tenir ce. C'est pas évident parce que nous, on touche rien. Quoi. On touche pas d'argent. Voilà. Si on fait des animations qui sont, on va dire, rémunérées, on touche un peu de sous. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à gagner un peu d'argent. Quand on organise une course, les trois quarts du temps, on perd de l'argent. Hein.
Oui.
Donc, on essaie de pas faire payer trop cher. Après, la licence, tout dépend ce que. Pour les enfants, ça doit être aux alentours de 20 euros la licence pour l'année.
Mmh.
En dessous de 18 ans. Et pour les adultes, pour une licence compétition, ça vous coûte 60 euros de mémoire. D'accord. Ou
65. Ouais. Après compétition, c'est ce qu'on disait, les quelques compétitions en Île-de-France et puis ensuite à la montagne. Quoi.
Et après,
il y en a même en province. Mmh. Parce que moi, je suis un petit peu, peut-être un peu un cas particulier parce que j'ai un club en Seine-et-Marne et je fais une course en Vendée. Moi, donc,
D'accord. à la mer, là-bas, ouais, carrément. Ouais, ouais.
Ah, puis les clubs de l'Île-de-France co-organisent des courses, à la montagne.
Ah oui, ouais, bien sûr. Voilà. Bien
bon, on n'a pas eu de chance cette année, et comme les années précédentes, elles ont été annulées faute de neige.
Ah, mince,
voilà.
Faute de neige.
Ouais.
Ah, t'es vert qui fait.
Vous savez, il y a la neige, il y a des stations quand on regarde le Vercors ou quand on regarde du côté de Cuvry ou dans l'Ain, des choses comme ça, c'est des stations qui sont à 1000 mètres d'altitude.
Mm-hmm.
Donc 1000 mètres d'altitude, ouais, on peut avoir énormément de neige,
et après,
en une semaine, il suffit qu'il y ait un peu d'eau, c'est terminé, il n'y a plus rien. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu le souci. Et, voilà. Parce qu'après, derrière, ce qu'il faut penser d'abord, c'est d'abord aux chiens. Donc plus on monte en altitude, plus les pistes sont alpines et sont difficiles.
Mm-hmm.
Plus on est sur des stations où on va faire du ski de fond, où c'est ces stations-là où les chiens se régalent.
De toute façon, on accepte les attelages plus en moyenne montagne. C'est vrai que les stations de haute montagne, on n'a pas trop l'autorisation d'aller faire du traîneau.
Allez, on fait la pause musicale. On y va.
You've been waiting for me and I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you. But then what I do. If it's a camera up in here, then I best not catch this flick on YouTube. Close a beer on your mouth and brag about your secret rendezvous. I will hunt you down. My business like a Wendy
Voilà, bah cette émission elle sera réécoutée en podcast, hein, comme toutes celles depuis le début de saison et puis celles aussi des saisons précédentes. Vous pouvez les retrouver sur tous nos différents réseaux sociaux. Alors la semaine dernière, donc
dimanche 9 février,
Bercy,
pour être précis,
ouais, une semaine après le Grand Slam de judo, une semaine avant la finale de Coupe de France de hockey sur glace, il y avait un classique, un rituel. Donc c'était le grand meeting indoor de Paris-Bercy. Alors Vanessa, on va très brièvement donc rappeler les vainqueurs et on va commencer, tiens, avec Timothée Adolphe qui a remporté le 60 mètres handisport avec Charles Renard qui était son guide.
Exactement.
Ouais. Donc on va l'écouter tout de suite. Donc il nous a répondu et vous allez voir, il a, t'as vu, il a poussé un coup de gueule. Hein.
Et on était à la veille donc de la mobilisation, oui, en République, donc lundi.
Ouais. Alors on écoute Timothée Adolphe pousser son coup de gueule. Allez Timothée, bah alors ça s'est bien passé cette course.
Ouais, ça s'est bien passé, c'est une bonne rentrée. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une rentrée aussi efficace.
Pas loin, hein. Tous les deux, à notre binôme, c'est, ouais, le meilleur temps. Je suis à un centième de mon record.
On n'avait pas programmé une saison hivernale. C'est juste une course pour faire un peu un point, un état des lieux, savoir un peu où on en est. On savait que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des choses qui se sont mises en place. Et au niveau du guidage avec Charles, et aussi moi techniquement. Parce que faut savoir, en fait, la formation d'un guide, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Et donc il arrive un peu à sa maturité. Le fait d'assimiler aussi les nouvelles méthodes d'un entraîneur, ça prend à peu près 2 ans. Donc c'est vrai que de ces 2 dernières années, ça a été un petit peu une grosse phase d'adaptation. Et là, on commence à récolter les fruits du travail. Donc c'est plutôt encourageant. On va pas s'emballer, c'est qu'une sortie. Mais c'est positif.
Est-ce que quels sont les points d'amélioration pour battre votre record personnel?
Là, je vous avoue, on est à chaud, on n'a pas pu faire le débrief. C'est vrai qu'il y a eu un faux départ et Moi, j'ai la sensation que je sors mieux sur le premier départ. Je sors un chouïa moins bien sur le deuxième. Après, on va faire l'analyse avec le coach. Mais voilà, non, c'était.
C'est
du détail. Et on sait que le chrono, il peut continuer de descendre. C'est qu'une première sortie, donc c'est intéressant.
Bon, Timothée, ça fait quelle impression de retrouver le public parisien après les Jeux?
Bah, ça tombe très bien que vous me posiez la question, parce que j'avais un message à faire passer, parce que on a quitté le Stade de France il y a 6 mois avec la parade, avec le Club France, où c'était une ambiance extraordinaire. On a vu que les paras ont suscité un réel intérêt auprès du public. Pendant des années, on nous a maintenus, on nous a parlé, on nous a promis un héritage des Jeux. Cette semaine, ça va faire 20 ans également qu'il y a une loi sur l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux publics qui a été votée, et c'est toujours inexistant. Et l'héritage, on ne sait pas où il est. Aujourd'hui, on est en pré-meeting, comme d'hab, à Bercy, alors qu'il y a des meetings comme Mondeville, Miramas, qui jouent le jeu depuis un bon moment. Et donc, ça montre encore le chemin à parcourir pour que les athlètes para soient reconnus à leur juste valeur, parce que je doute qu'un athlète olympique médaillé aurait couru en pré-meeting.
Quelles sont vos prochaines échéances après ce meeting?
On n'avait pas prévu de faire de saison hivernale, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va faire les championnats de France. On va voir si on rajoute une date ou pas. Mais comme je disais, à la base, c'était surtout pour faire un point, un état des lieux d'où on en est dans la préparation. C'est positif, on va voir quelles conclusions en tire le coach.
Et d'après vous, comment cette saison hivernale peut vous aider à préparer la saison estivale, justement?
Nous, on utilise vraiment beaucoup le 60 mètres pour préparer le 100 mètres. Donc voilà, après, c'est vraiment le détail technique, parce qu'on sait que sur 100 mètres, l'erreur, elle est fatale, mais sur 60, elle l'est d'autant plus. Donc là, ça nous fait vraiment travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les détails techniques, ce qu'on fait depuis des semaines. On a mangé de la construction et de la création de vitesse pendant ces dernières semaines. Et au final, c'est plutôt concluant. Le travail, il paye. Donc voilà, non, c'est une sortie qui est très, très positive. Et comme je disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une rentrée aussi efficace. Donc c'est plutôt cool. Je sais que la piste ici n'est pas forcément extrêmement rapide. Donc les France, à la fin du mois, c'est à Aubière. Donc on espère
que
le chrono va descendre.
Moi, je tiens juste à rajouter que du coup, c'est vrai que pour rebondir à ce que disait Timothée, tous les meetings en France commencent à jouer le jeu, que ce soit Miramas, Nantes, Lyon également. À l'international, quand nous on va aux États-Unis, il y a des courses para en plein milieu du programme universitaire déjà. En Allemagne, à Karlsruhe, il y a une course en plein milieu du meeting. En Belgique, en Espagne, enfin bref, partout dans le monde, il y a des courses para partout. La seule course où il n'y a pas, c'est en France, c'est à la capitale, c'est le meeting de Bercy à Paris. Et je trouve ça dommage, sachant qu'on a vu quand même l'engouement qu'il y a eu pour les paras au jeu. Ils ont quand même rempli le Stade de France plus que les valides. Donc voilà, ce serait bien que l'année prochaine on soit...
Est-ce que vous pensez que ça peut changer après ces Jeux paralympiques?
La preuve que non, ça ne change pas. Tiens, rapproche-toi si tu veux dire quelque chose. La preuve que non, ça ne change pas. Là, on est à 6 mois. C'est, d'ailleurs, on va dire que c'est encore chaud dans la tête du public. Tout le monde nous parle encore des Jeux, de Paris, etc. Les instances, elles, ne bougent pas. Déjà, quand on voit qu'un mois après, on oublie de mettre un ministre du handicap, ça prouve bien les choses, quoi. Maintenant, c'est juste dommage que le meeting de Paris ne bouge pas les choses et ne soit pas, par exemple, précurseur de ces choses-là, quoi.
C'est ça. On avait dit que, moi, je l'avais dit longtemps avant les Jeux, ça ne doit pas être une finalité, mais ça doit être un point de départ pour lancer une nouvelle dynamique. Et fort obligé de constater que on n'y est pas du tout.
Voilà pour le coup de gueule donc de Timothée Adolphe, hein, avec son guide, hein, Charles Renard. Timothée Adolphe, donc vainqueur du 60 mètres handisport en 7 secondes et 17 centièmes. Chez les femmes, donc le 70 femmes, c'est Marie Gousseau-Gouilly, donc la Française, qui s'est imposée en 8 secondes 02 centièmes. Et ensuite, on a eu l'épreuve du 60 mètres et hommes. Et là, on a eu deux vainqueurs, oui. Deux ex-aequo. Hein,
Willem Bellossian et Juste Kouaoumaté en 7 secondes 52,
ouais,
ex-aequo.
Justement, on va écouter donc Willem Bellossian, naturellement interview faite avec l'ensemble de la presse.
Une victoire au forceps, c'était naturel? Oh, d'abord, merci, c'était un peu mitigé. Très serré à la fin, une course ouais, très 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 serrée, départagée au millième, je crois. Donc, vraiment, ça fait du bien de gagner à la maison devant le public français. Ça fait un moment qu'on attendait cette compétition parce que voilà, c'est vraiment le spectacle chaud. Et voilà, c'est de bonnes gueules pour la suite, j'espère.
Tu sentais qu'il y avait un coup à faire dès les demi-finales?
Ouais, je mets les choses en place petit à petit. Il faut que je prenne encore confiance dans mon départ, parce que j'essaie de me lâcher un peu plus. Là, je suis encore un peu trop sous la retenue, je me regarde un peu courir. Et dès que ça part, ben, je sors de mon schéma. Sinon, si j'arrive à rectifier ça, ben, ça peut faire des très bonnes courses.
Très beau cadeau.
C'est ça, c'est pas mon anniversaire.
William, tu changes de William, tout simplement au niveau chrono, c'est ce que t'es satisfait?
C'est du positif, ça reste voilà, voilà, on met un plateau en place, donc ça c'est cool. Maintenant je peux courir plus vite et j'espère que ça va descendre très vite. Je suis assez impatient.
Quels sont tes objectifs pour la suite?
Là il y a les 20, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui vont arriver aussi. Donc voilà, préparer, avoir le maximum de skills possible, le maximum d'informations pour que je puisse arriver le jour J et pouvoir m'éclater et aller chercher une médaille.
Est-ce que c'est une référence pour toi?
Référence, je ne sais pas, mais toutes les courses apportent des informations. Donc forcément, il y aura des informations qui vont sortir de celle-ci. Et maintenant, on va débuffer tout ça avec le coach et focus sur la suite.
Peut-être avec le public comme ça, parisien, quelques mois après les Jeux, ça fait du bien aussi de retrouver cette ambiance.
Ouais, exactement, ça fait du bien de fou. De toute façon, on aime trop courir devant le public français, ici et pour le meeting de Paris aussi, à l'extérieur, enfin l'été. Donc vraiment, c'est un plaisir.
Tu nous parlais de petits problèmes mentaux des fois qui t'empêchaient d'atteindre tes objectifs maximum. Est-ce que ce soir ça peut être un déclic?
Ça peut être un déclic, je pense, mais bon, encore le départ où je reste encore scotché, c'est là où je fais une fixette dessus, je pense. Il faut que j'arrive à éliminer ça et je pense que ça peut.
10 mètres de plus et tu gagnais?
Ah, ça je sais pas, parce qu'en fait je me touche avec l'américain à côté, donc ça me déséquilibre. Donc ça m'avantage parce que je suis un peu en avant, mais je ne sais pas si c'était dans mes meilleures conditions si j'ai gagné la course.
Quel est ton rythme de croisière à l'entraînement?
Comment ça?
Comment tu t'entraînes?
Ah, on s'entraîne du lundi au vendredi. Là, on est en période de compète, donc c'est un peu, il y a des jours de repos. Et les séances commencent un peu à être dégressives, voilà, vraiment très courtes. Parce que justement, il faut que le jus commence à monter, parce qu'on a bien charbonné jusqu'à le mois dernier. Donc là, ça monte petit à petit.
Oui, les messes, qu'il faut vraiment compter sur la suite.
Oui. Attends, quand même. Oui, il faut compter sur moi, bien évidemment. Parce que je suis à la tête française où on a envie de gagner, on a envie de faire de belles choses et de continuer justement à promouvoir cet athlète français. Donc oui, il faut prendre.
Et William, tout simplement, Sacha, on ne sait pas encore s'il va courir cet hiver, mais il y a encore une fois une grosse densité. Là, Pascal qui rentre quand même dans les minima monde, ça prouve qu'il faudra gagner sa place pour toutes les compètes.
De toute façon, ça a toujours été sur le 60 mètres haies ou le 110 mètres haies. L'école française est toujours présente, on répond toujours au rendez-vous. Ils ont rendez-vous par nous, donc ça ne m'étonne même pas en fait, qu'on soit autant à l'entrée des minima. Mais ça se départage toujours en France, s'il n'y a pas de blessé, évidemment, parce que la saison elle est parsemée d'embûches parfois. En tout cas, je ne supporte pas tout cela pour donner un beau spectacle à Miramas dans quelques semaines.
Tu vises le doublé, toi? Pardon, on en a parlé hier.
Toujours.
Merci.
Tu te sens capable de faire grimper déjà le curseur pour jeudi, là, pour les titiller Holloway?
J'espère en tout cas, parce que là, il faut vraiment que j'arrive à me lâcher. Voilà, passer la ligne et voir ce qui se passe. Donc moi, ouais, je pense que avoir des courses comme ça peut être que bénéfique justement et faire une très bonne course, s'approcher en tout cas à ces gars qui sont déjà à leur niveau et pour moi me permettre d'avoir une bonne cadence sur la course.
Et pour te lâcher, qu'est-ce qu'il faut?
Ce côté un peu fou, je pense. Ce côté un peu fou, cette brille, enfin. Ouais, c'est une neurone qui ne se touche pas et voilà, on y va et on va sur ça.
Je
vais
pas se poser de questions.
C'est ça, exactement. Exactement.
Merci.
Voilà, parce qu'il y a des grands rendez-vous qui attendent, notamment Willem. Il y a les championnats d'Europe donc 15 jours, 3 semaines, et puis 15 jours après, il y a des championnats du monde. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu 3 donc, coureurs dans le même temps. Il y a eu Pascal Joseph, le Suisse, qui a terminé également 3e, et puis Pascal Martineau Lagarde, le Français, qui a terminé 4e. Il a terminé en 7,54, 7 secondes et 54 centièmes.
Oui.
Il est tout près donc des minima.
Exactement, ouais.
Alors, le problème, c'est qu'il comptait mettre un terme à sa carrière, Pascal Martineau Lagarde, et plus il est des contrats, plus il est serein, il a été fêté d'ailleurs toute la famille, eh ben, il fait des temps. Alors, on lui a demandé s'il allait donc continuer comme ça.
Une chance sur deux qu'on se dise au revoir sur des élites, des trucs comme ça. Mais t'imagines, il y a des minima. Je vais dire, oh merde, je vais devoir refaire une prépa. En fait, c'est ça. Tu sais, je m'entraîne moins qu'avant, je vais moins chez le kiné, je bosse énormément, ma vie a complètement changé ces 2-3 dernières années et c'est dur de faire plusieurs projets en même temps. Donc c'est pour ça que je me suis plus ou moins convaincu que c'était la fin et que j'avais plus rien dans le sac. Et là j'ai posé un truc qui me fait dire merde, je suis capable, tu vois. Donc je peux même pas vous dire si c'est la fin. En tout cas je kiffe.
Voilà, il kiffe Pascal Martineau Lagarde. Donc, moi, je suis pas convaincu qu'il mette un terme donc à sa carrière à l'issue de cette saison, même s'il a été, on l'a vu, donc fêté en famille. Bon, le troisième dans le même temps, c'était Jason Joseph. Hein,
exactement, le Suisse.
Oui.
Puis on a eu d'autres victoires tricolores en 60 mètres femmes, Gemina Joseph en 7 secondes 23. Et une Française sur le podium, toujours du 60 mètres femme, Hélène Parizeau, en 7 secondes 26.
Oui, alors il faut dire quand même que Gemina Joseph, après sa victoire, elle est partie à l'hôpital. Hein.
Oui.
Elle s'est fait,
mal, malheureusement.
Une lésion musculaire.
Sur les
oui.
images.
Oui.
Et puis on a eu aussi la victoire aux 60 mètres et femme de Laetitia Bapté en 7 secondes 83 devant l'Irlandaise Sarah Lavin, 7 secondes 99. Et Crystal Morrison de la Jamaïque
oui.
en 8 secondes 01 en 8 secondes 01 pardon centième. Ouais. On avait peut-être d'autres
résultats aussi. Le 60 mètres homme donc avec Ali Al Balouchi donc de l'Oman qui s'est imposé en 6 secondes 53 centièmes et après bah, on arrive ni plus ni moins au concours avec la perche.
Oui.
C'est Jacob Wotten l'Américain qui s'impose avec un saut à 5 mètres 60 en longueur femme c'est Annick Galin la Suisse donc la Suissesse qui l'emporte avec 6 mètres 77
avec une Française troisième oui. Rogilia Bissemo 6 mètres 46.
D'accord. Voilà. Et puis donc on finira avec la longueur homme, c'est Simon Batz, l'Allemand qui s'impose avec tout juste 8 mètres. Il y a eu plus de 11 000 spectateurs quand même. Hein.
Oui, à Bercy c'était plein ouais. et puis il y avait aussi Christine Aron qui était oui. présente, qui était là dans le public. Mmh. Et puis pour cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer plus exactement, il y a eu le meeting de Liévin
oui.
jeudi.
Ils ont parlé dans l'interview. Ouais.
Exactement, où Willem Bellossian donc, a fait 7 secondes 50, donc il a battu le temps de Bercy quelques jours après. Mmh. Et puis on a eu d'autres belles performances
oui,
françaises.
Bah, donc on parlait des championnats d'Europe et des championnats du
c'est
monde
ça.
Qui arrivent. Donc il y a peut-être des possibilités pour les Français de bien figurer.
Voilà, bah, je pense que les championnats de France vont être aussi un petit peu là. Vont un peu prendre la température avant ces grandes échéances internationales.
Est-ce que la famille de l'athlétisme était là? On a eu donc Christine Aron. Mais...
Christine Aron ouais. et pour...
Peut-être Kevin Meyer, la Villonie, Doucouré, Lemaître, Barbeur...
Je sais que Kevin Meyer, il est un petit peu, oui. il est plutôt en, oui. pour l'instant en retrait, il prend mmh. un peu une pause, mmh. mais on sait qu'il y avait Christine Aron dans la salle. Pour le reste, je n'ai pas eu des infos précisément.
Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même une belle réunion. C'est avant tout la fête de l'athlétisme. Hein.
Ça, c'est sûr. Le meeting ouais. indoor à Bercy, c'est une tradition chaque année mmh. depuis déjà très longtemps. Et donc tout le monde vient pour regarder ce grand rendez-vous.
Oui, c'est vrai que plus de 11 000, on disait, je crois que c'est la plus forte affluence. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la plus forte affluence depuis le meeting, depuis la création de ce meeting.
Oui, ouais. je crois, enfin, je n'ai pas les autres chiffres d'autres années. Mais...
Justement, un petit mot là, sur le coup de gueule de notre ami Timothée Adolphe.
Ah bah moi,
je vous ai vu de créagir pendant l'interview.
Bah ouais, ouais, bah moi je suis complètement d'accord avec lui de toute ouais. manière parce que en France on promet mais ouais, on n'agit jamais donc mm-hmm. donc voilà c'est un peu ouais. c'est nos politiques actuelles.
Ouais. Hein. Alors on va essayer de l'avoir. Hein. Il devrait venir peut-être dans nos studios le 14 avril avec donc ouais. Son guide. On est en train de mettre ça donc sur pied et je pense que bah, le coup de gueule il ira beaucoup plus loin encore. Voilà. Alexandre, tu voulais continuer, toi, à poser une question concernant...
Ouais, je voulais poser une petite question rapide. C'était concernant, en fait, les autres pays. Comment, nous, on se situait, si on était en retard, si on était dans les temps, en avance, etc. Je pense à des pays comme en Europe, la Norvège, la Suède, enfin les pays nordiques. Après, il y a aussi les pays outre-mer, comme le Canada, etc. Donc, je voulais savoir. Voilà.
Alors, effectivement, la France se situe très bien. Surtout, je dirais que nous, au niveau de la Fédération française, depuis le cas de traîneau à chien, on est bien placé parce qu'au niveau de la Fédération internationale des sports de traîneau, la FISTEC, on est la nation qui avons le plus de votes au moment des élections. Donc, ce qui veut dire que la France est quand même bien placée, étant donné qu'on est... c'est nous qui avons le plus de licenciés par rapport aux autres nations. Après, derrière, il faut aussi comparer... Autre chose, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se détournent du chien nordique pour aller sur le chien typé croisé, chasse, parce que ce sont des chiens qui vont plus vite. Mais comme je le dis,
c'est quand même dommage, hein.
C'est dommage, effectivement. Mais bon, après, derrière, ces gens-là visent certainement beaucoup plus la performance. Ouais. Que nous, on peut viser la performance. Maintenant, nous, on vise aussi la performance, mais contre des Nordiques. Oui. Voilà, contre les, voilà. On se bat pas contre les autres, on se bat contre, ouais, contre les Nordiques.
Alors, vous qui avez fait le Must, la grande odyssée, hein, on en vit ce sport.
Alors,
vous parliez de bénévolat, bon, ok. Ouais. Mais quand on gagne, par exemple, la Grande Odyssée, ceux qui gagnent la Grande Odyssée, est-ce qu'ils ont des partenaires, des sponsors qui peuvent les faire vivre de ce sport ?
Alors, sur la Grande Odyssée VVF, il y a plusieurs types de musher.
Oui.
Il y a le musher qui va faire du tourisme. Donc, celui-là se dit, entre guillemets, musher pro. Mais musher pro, ce n'est pas dans le sport, c'est dans le tourisme. Donc, celui-là, oui, effectivement, va vivre de ses chiens.
D'accord.
Va vivre de ses chiens. Après, des courses, les courses ne sont pas primées, excepté la Grande Odyssée VVF qui, elle, depuis son début, il y avait de très, très grosses primes pour ceux qui gagnaient la course, parce qu'il y avait quand même, il y avait des Américains qui venaient au départ, il y avait des Canadiens, il y avait des gens qui venaient de partout. Enfin bon, après derrière, il y avait quand même toute une grosse équipe avec Henri Cam et Nicolas Vanier et puis Dominique Grandjean qui savaient faire venir justement tous ces gens-là. Donc automatiquement, il y avait des sponsors, il y avait des partenaires, il y avait toutes ces choses-là. Donc et là, il y avait. Maintenant, les primes de course sont beaucoup moins importantes sur la Grande Odyssée VVF. Après, derrière, moi, je me plains pas parce que moi, je veux dire qu'en finissant premier nordique, bah, je vais partir une semaine pour 4 personnes en VVF de mon choix en France. Donc voilà, donc non, mais c'est très bien.
Ouais, c'est déjà
c'est, hein. C'est très bien, mais il ne faut pas dire que c'est pas. Moi c'est le travail, mon travail, que c'est mon travail, et maintenant c'est ma retraite qui me permet de faire vivre mes chiens. Avec, voilà, c'est ça.
Ouais. Les partenaires qui donnent de l'argent, ce sont beaucoup de partenaires français ou...
Alors les partenaires, bien souvent, ne donnent pas de l'argent.
Ouais.
Ils donnent,
c'est
plutôt matériel. Moi, j'ai un partenaire. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler ici, mais bon, voilà, j'ai un partenaire matériel qui me fournit du matériel tous les ans pour les chiens, ce qui fait que j'ai du matériel.
Ça vaut
de l'argent. Après, derrière, j'ai les produits de massage pour les chiens, c'est pareil. Pour les bottines, parce qu'on n'a pas parlé des bottines, mais les bottines, ça coûte horriblement cher. C'est des petits chaussons qu'on met aux chiens.
Ah oui.
Mais ça, c'est quelque chose, c'est des soins. Donc ça, la bottine, grosso modo, prix public, elle est à peu près à 3 euros la bottine. Donc par chien, ça fait 3 fois 4, 12. Ça fait 12 euros pour une manche, hein, pour une course. Hein.
Mm-hmm.
Alors si c'est x 10...
Ça fait
120 euros par étape, fois 12 étapes.
Ouais.
Voilà. Grosso modo, donc voilà, c'est des budgets qui sont relativement qui sont importants.
Donc
après,
c'est quand même pas à la portée tout le monde ce sport quand même.
Il faut du budget. C'est comme je dis, on le dit tout le temps. Même Momo peut en parler. C'est un sport de riches et fait par des pauvres.
Ouais.
Après, c'est toujours pareil, tout le monde ne fait pas la Grande Odyssée. Hein.
Après,
parce que c'est pareil, qui peut faire la Grande Odyssée ? N'importe qui ? Ou alors il faut quand même avoir gagné des courses ?
Alors, au départ, c'était sur dossier. Moi, je vous garantis qu'en 2008, en 2007, au printemps 2007, quand j'ai fait ma demande de candidature, j'ai envoyé mon CV.
Mm-hmm.
Et puis, pris ou pas pris.
Mm-hmm.
J'étais comme un gamin. Hein. Ça arrivait le 14 juillet. Hein. La réponse, j'ai eu le 14 juillet. Puis j'étais comme un gamin. Je faisais des bons à la maison. Hein. Mais maintenant, il reste le plus dur.
Ouais.
C'est préparer les chiens.
Oui, bien sûr.
Donc, on a eu de bons conseils par de très grands mocheurs, des gens que moi, j'ai beaucoup de reconnaissance. Pour Daniel Fournier, Isabelle Travadon, c'est des gens d'exception, ça.
Mm-hmm.
Et c'est grâce à eux si j'ai peut-être réussi à faire tout ce que j'ai fait. Mais c'était sur dossier. Maintenant, ils sont partis sur un format, parce que vu que c'était très, très dur, parce qu'on faisait quand même presque 1000 km en 12 jours.
Je pose la question.
Au départ, on faisait
1000
km en 12 jours. Et en dénivelé positif, on se faisait entre 4 et 5 fois l'ascension du Mont-Blanc.
Ah oui.
Donc maintenant, on est sur des formats de, à moitié. On est sur du 500 km max avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est déjà plus à la portée de tout le monde. C'est moins compliqué. Et maintenant, bah, c'est vrai que maintenant, il y a. Bon, après, derrière, il y a des petites discussions qu'il y a pu y avoir, mais ça se faisait même plus, ça se fait pas sur dossier, c'est les premiers inscrits qui sont pris. Donc voilà, donc c'est. Maintenant, ils sont revenus sur des profils où justement, ils se sont aperçus que des fois, il y a des gens qui s'inscrivaient qui n'avaient jamais fait de traîneau de leur vie. Donc, bah non, là, on ne les prend pas, ces gens-là, parce que faut quand même, on envoie des gens, on a beau avoir une balise GPS, un Arva sur nous, et ainsi de suite. On n'en voit pas n'importe qui dans la montagne, hein, quand même, il faut faire attention. Ouais. Hein.
Avant d'enchaîner sur la musique et le foot, un très beau sujet qui a été passé il n'y a pas longtemps, hein, une demi-heure, et on vous a vu dedans.
Bah ouais, on a vu dedans parce qu'effectivement, ils voulaient faire une émission télé sur ma première Grande Odyssée.
Je suis tombé en plein dedans.
Et moi, j'ai eu la chance, bah, j'avais un chien qui n'avait pas fait la Grande Odyssée l'année dernière parce que justement, blessé, ça devait être sa première, son frère l'a fait. Et donc, ils ont pris ce chien-là comme exemple. Et voilà, donc on voit le chien, on le voit à la maison et tout et tout. Elle, Slap a fait sa vedette. Et puis en même temps, comme c'était une émission qui était ma première Grande Odyssée, bah, c'est une adhérente du club, c'est Cécile qui est d'Aurore Boréale, qui a été la mocheuse, étant donné que c'était sa première année. Et sur cette première année, cette première Grande Odyssée VVF, elle a fait une super perf, étant donné qu'elle termine troisième nordique. Et je pense qu'elle sera redoutable l'année prochaine.
On pourra donc le revoir sur les replays de nos amis de France Télé. Allez, la pause musicale et ensuite on va parler du ballon rond avec notre ami Stéphane Dezenclos.
Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
Allez, comme promis, on va retrouver comme chaque lundi notre ami du quotidien du sport, Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, alors Stéphane, avant d'entrer sur ce qui s'est passé sur le terrain, un petit mot sur le litige qui se déroule entre DAZN et la LFP et qui peut remettre le football français fortement en question.
Ouais, le souci c'est que moi j'avoue, je pense comme d'ailleurs beaucoup, hein, on n'est pas dans le secret des dieux exactement dans toutes les réunions, dans tout ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème de gestion de la part de la LFP. Alors, ce n'est pas forcément pour ça. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que tout est de la faute de Vincent Labrune, parce que je pense que ça va beaucoup loin que ça. Mais c'est clair que DAZN, je ne sais pas s'il l'avait réclamé avant, mais c'est vrai que il y a une mauvaise, en tout cas, il y a une mauvaise utilisation, une mauvaise pub, une mauvaise utilisation qui est faite de la Ligue 1, quoi. Quand on regarde ce qui se passe à côté, alors est-ce que c'est pour ça que c'est très très complexe, hein, les clubs français, est-ce que les clubs français sont prêts à faire comme le font les clubs anglais, par exemple, ou comme le font plein d'autres avec laisser rentrer les caméras dans les vestiaires, plein de choses que réclament entre autres aussi DAZN en disant qu'ils sont pas, peuvent pas travailler. Travailler correctement. Après, est-ce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que Canal+ serait parti, que Canal+ ne résume pas son entrée dans l'appel d'offres pour les droits télé, ses relations avec la présence ou pas de Vincent Labrune. Donc tout ça est très 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 complexe. Effectivement, moi, je pense surtout qu'à la base, on ne sait pas vendre. On a un bon. Moi, je pense, j'ai toujours défendu la qualité de la Ligue 1, hein, par rapport à beaucoup d'autres matchs qu'on met en avant, mais simplement les autres championnats sont peut-être beaucoup mieux vendus que la Ligue 1 est vendue, quoi. Donc, je pense que ça vient là. Maintenant, c'est effectivement très grave parce que là, il y a la fédération qui va payer les clubs qui attendent là en février à une grosse somme d'argent, quoi. Donc, voilà, maintenant, c'est vrai qu'on va vers un rétrécissement de la Ligue 1 à 14, à 16 clubs, comme un top 14.
Certains ont parlé même à 12, mais enfin, on aura l'occasion d'en discuter.
On va parler de ça maintenant. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est simplement révélateur. Ouais. Un petit peu. Moi, je pense que c'est beaucoup plus révélateur de l'état du foot, quoi, des présidents de clubs, les ambitions des présidents de club et tout, plus mais quand même aussi que forcément une personne ou autre chose, quoi.
Allez, on va maintenant sur le terrain avec un retour sur les matchs allés des barrages, hein, les 16e de finale. C'est pas une surprise, hein, on s'attendait à une nette victoire du PSG, ça l'a été, victoire à Brest 3-1. Benfica qui va s'imposer à Monaco 1-0, le Dortmund qui va gagner au Sporting du Portugal 3-0, très beau match entre Manchester City et le Real Madrid avec une victoire sur le finish du Real 3-2, victoire du Bayern 2-1 devant le Celtic de Glasgow, la Juventus qui bat le PSV Eindhoven 2-1, Bruges qui bat Bergame 2-1, et puis Feyenoord qui bat le Milan AC 1-0. Bon, finalement Stéphane, tous les gros vont être là, quoi.
Bah, on a l'impression, en tout cas, s'il faut des surprises, il va falloir que ça ait lieu au match retour, quoi.
Oui.
Et puis, de sacrées surprises, hein, à commencer, bien sûr, par exemple, pour Brest, hein, faudrait que ça soit plus qu'une surprise encore. Je pense même aussi au Bayern Munich, je pense au Milan AC, qui sont effectivement, normalement, qui ont plus de chances, je pense, de se qualifier, quoi. Donc, oui, voilà, maintenant, ça reste des barrages, quoi. Donc, il n'y a pas eu quand même de grandes affiches, de grands spectacles.
Si, Manchester City Real, quand même, c'était pas mal.
C'est ce que j'allais dire, si ce n'est ce match, qui était vraiment un très bon match, quoi. Oui. Un très, très bon match, malheureusement. Mais donc, je pense que le 2-2 aurait été plus mérité que le 3-2 pour les Espagnols. Mais bon, c'est effectivement, donc ça peut être... ça reste des barrages, quoi. Voilà. À part effectivement ce choc entre le Real, Manchester Real, on voit à travers le PSG, par exemple, Brest, Paris Saint-Germain. Bon, Enfin, moi, j'estime qu'il n'y a pas eu match. Quoi,
non, il n'y a pas eu de match. Hein.
Non, il n'y a pas eu de match. Maintenant, on peut regretter peut-être un peu quand même l'arbitrage de Monaco-Benfica, parce que l'expulsion elle est quand même très, 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 très sévère. Quoi. Donc, après, bon, bah, c'est dans le règlement. On ne doit pas demander de carton pour un adversaire. Le joueur doit le savoir. Donc, il ne doit pas le demander, déjà. Mais c'est vrai que ça paraît quand même un peu sévère. Quoi.
Des cartons, il y en a eu, mais au niveau des scores, hein, au cours de la 22e journée du championnat, 33 buts avec 6 victoires à l'extérieur. Carton pour Marseille qui a écrasé Saint-Etienne 5-1. Carton pour Monaco qui a battu Nantes 7-1. Carton pour Lyon qui est allé gagner à Montpellier 4-1. Et carton aussi pour Nice hein, qui est allé gagner au Havre 3-1. Et Strasbourg qui a battu Lens 2-0. On va noter aussi le nul entre Brest et Auxerre 2-2. Et puis la victoire du PSG qui a assuré l'essentiel à Toulouse 1-0. Ainsi que sur le même score, Angers qui s'impose à Reims 1-0 et Lille, donc je le disais, qui est allé gagner à Rennes 2-0. Finalement, c'est le statu quo en tête du championnat, malgré tout, Stéphane. Hein.
Ouais, ouais, bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, toutes les équipes, c'est ça, oui, toutes les équipes de tête. Bah, le gros perdant, c'est quand même Lens. Si on oui, peut considérer oui, que Lens, oui. C'est encore une équipe de tête, on
va il, est plus, équipe, il est plus européen, Lens. Hein. Il est plus
ouais,
européen.
Voilà.
Ouais.
Bon, de toute façon, à mon avis, Lens va avoir beaucoup de mal à. Va avoir beaucoup de mal. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est Nice. Nice, c'est assez incroyable. Quoi. C'est ils ont joué le jeu à fond du championnat. Donc, ils ont des résultats en championnat. Mais c'est moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est Nice. Mais c'est vrai que là, ça commence un petit peu à se décanter. Ça commence quand même un peu à se décanter quand même. Quoi. Les Lillois ont montré que. Les deux matchs de suite, ils avaient eu un trou d'air, hein, Dunkerque oui. et Le Havre, parce qu'ils font un match, ça aurait quand même été un des plus grands hold-up du siècle si jamais Rennes avait battu Lille, et même s'il y avait eu un match nul. S'ils ont quand même un but refusé pour un hors-jeu de 5 cm, et ils ont un but, un pénalty raté, une ou deux barres, je crois, un poteau sûr. Donc c'est assez impressionnant quoi. Il fallait quand même qu'ils existent avec surtout à mettre en avant, je pense quand même ce week-end la magnifique histoire de Nabil Ben Taleb.
Oui.
Franchement, c'est qui n'a pas qui a regardé sa télé dimanche soir et qu'il soit supporter de n'importe quelle équipe n'a pas eu un peu les larmes aux yeux ou en tout cas une émotion incroyable quoi. Je veux dire. En vivant ça, quoi. Moi, je vois quand il est rentré, je me suis dit, il est poussé, je me suis dit, il ne manquerait plus que ce soit lui qui marque le but, quoi.
Et bien, voilà.
4 minutes après, il marque.
Ça a été, ouais, ouais. Belle histoire. Ah ouais. Donc ouais. Le PSG en tête avec donc, 10 points d'avance sur Marseille, hein, 56 pour Paris, 46 pour Marseille. Toujours donc Nice et Monaco à égalité avec 40 points, mais Gaulle avra supérieur pour les Niçois, plus 17 contre plus 15 pour Monaco. Ensuite, on l'a dit, donc Lille 5e avec 38 points et 6e Lyon qui redevient européen du coup avec 36 points. Et puis en bas de tableau, donc Saint-Etienne 16e avec 18 points, 17e Le Havre 17 points et 18e Montpellier 15 points. Finalement, ça s'est resserré en bas quand même. Hein.
Ouais, ça s'est resserré, ça s'est un peu resserré, et puis ça montre aussi que quoi, nous qui sommes Philippe journaliste, et oui. Mais qui ne sommes pas, en tout cas moi je ne me vois pas comme ça, des journalistes qui veulent donner des leçons, qui veulent prêcher la bonne parole forcément, parce qu'en foot, rappelez-vous, quand Eric Hormeland est arrivé à Saint-Etienne, on en a entendu que du bien avec lui, ça, là il va se passer quelque chose, moi je suis confiant et tout là, de grands talk shows et tout, c'est ce que disait tout le monde, et puis finalement la situation elle est presque encore pire quoi. Il a gagné un match ils ont battu un match et puis c'est tout, un nul contre Nantes à Geoffroy Guichard dans un contexte très très chaud parce qu'il fallait absolument gagner ce match, et puis sinon après c'est que des défaites quoi. Donc ça veut dire que Saint-Etienne n'est pas sorti d'affaire. Moi je veux dire, par rapport à il y a 6-7 matchs c'est le plus surprenant de voir Saint-Etienne là où ils sont quoi. C'est vrai que on pouvait peut-être s'attendre un petit peu mieux, mais là franchement c'est c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique, ce qui se passe dans ce club, c'est quand même catastrophique, quoi.
Oui. Où ça a bougé, ben, c'est en Ligue 2, 23e journée, hein, puisque Lorient, certes, reste assez confortablement en tête en ayant gagné à 3-1-0. Par contre, défaite du Paris FC à Dunkerque 1-0, victoire de Metz à Guingamp 3-0. À noter la belle victoire pour le Restart devant Martigues 1-0. Ce soir, il y aura Annecy-Caen à 20h45, ce qui fait que maintenant, bah, le Paris FC est troisième, puisque Lorient reste toujours en tête à 49 points, devant Metz, deuxième, 44, troisième Paris FC, 43, et que Talon, donc Dunkerque, avec 42 points, quatrième, et cinquième Guingamp, 38 points, et puis en bas de tableau, c'est également assez serré, hein, 3 et l'AC Ajaccio sont 12e avec 27 points, tout juste devant Rodez, qui partage la 14e place avec donc le Restart, 26 points, 16e Clermont, qui s'est enfoncé 25 points, et par contre, sans décrocher, donc Martigues 17e avec 18 points, et Caen 18e, 15 points.
Ouais, ouais, bon, on va voir ce qui va se passer, ben, c'est sûr, c'est inquiétant quand même pour, c'est inquiétant pour le Paris FC, je trouve.
Oui,
parce
oui, oui.
Que le Paris FC est 3e, et pas derrière n'importe qui, ils oui. sont derrière, ils sont 3e derrière Lorient, une équipe très 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 solide, hein, cette mm-hmm. saison, et puis Metz qui était effectivement parmi aussi les grands favoris pour la montée, quoi. Metz qui a fait un bon petit recrutement mm-hmm. et qui est le favori. Alors ça va être des équipes qui vont être difficiles à déloger, ouais. Si on peut penser que d'autres font de très bons parcours et encore leur chance, hein, comme Dunkerque,
ah oui.
pour parler de Dunkerque, même Guingamp, des clubs comme ça sont encore dans le coup, mais c'est quand même assez inquiétant. Moi, je trouve que c'est très inquiétant pour le Paris FC, qui, quoi qu'on en dise, serait quand même un échec monumental si le Paris FC ne montait pas en Ligue 1, quoi. Ouais. Ça c'est bon. Ils ont beau dire que, alors peut-être un truc de médias, mais bon, annoncé, ils ont changé, ils ont déjà prévu d'avoir leur nouveau stade pour l'année prochaine.
Oui, ça y est, c'est Jean Bouin l'an prochain.
Ouais, c'est Jean Bouin. Ouais. Ils vont jouer à Jean Bouin, ils ont quand même un effectif, en tout cas sur le papier, qui est assez impressionnant aussi, quoi, avec des recrues, des investissements, là, je ne parle même pas d'argent, mais bon, ouais. C'est assez incroyable, quoi. Et donc, s'ils ne montaient pas, ça va être dur pour eux, je pense, d'aller déloger Metz et Lorient.
Oui, ils sont barragés pour l'instant. Pour le Restart, donc, qui se bat pour le maintien, hein, c'est compliqué aussi, mais enfin, Rodez est sur la même ligne. Clermont, ouais. C'est quand même assez incroyable pour l'instant, et donc aussi barragés, donc
juste un point derrière. Ouais. Au mois de mars, il va y avoir notamment par exemple un Red Star Rodez, qui à mon avis va valoir cher. Ouais. Mais moi, je dirais pour que le Red Star, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, ouais. pour le Red Star, même s'ils ont eu des retours des joueurs qui ont été absents très longtemps, des blessures graves qui reviennent petit à petit. Je pense absolument à Danger, justement, par exemple, qui est un ancien de Rodez, qui a été recruté, qui a eu, je crois, une pub algique, qui a été opéré et tout, et qui a raté beaucoup de matchs, qui revient maintenant. Donc l'équipe, elle est un petit peu plus solide. Mais c'est vrai que ça va être très chaud. Clermont, pareil.
C'est incroyable, Clermont. Hein, c'est comme Caen. Hein. Ah, ouais.
Clermont, ils ont vécu une... Voilà, comme Caen, on peut penser aussi peut-être que Caen arrive à s'en sortir, mais c'est-à-dire que en fait, si je parle de ça,
il y a trop d'écart, hein.
De Clermont, de Caen, c'est parce que, et même à la limite, le Red Star pourra peut-être plus s'en sortir, parce que c'est des équipes qui vont être qui donnent un peu l'impression d'être traumatisées par de vivre ces saisons-là comme vraiment des traumatismes, quoi. Alors si vous prenez par exemple une équipe comme Rodez, comme je disais, ou très probablement comme le Red Star aussi, qui était de toute façon construit ou bâti en se disant qu'ils allaient devoir lutter pour se maintenir, c'est des équipes qui vivent ces situations-là finalement peut-être un peu plus sereinement, quoi, que ce qui est le cas pour Clermont qui a changé d'entraîneur, pour d'autres équipes, si ils avoir encore des changements de Caen qui a changé d'entraîneur par exemple, mmh. Martigues qui a changé d'entraîneur, ouais. aussi. Et puis vous avez ceux qui sont plus peut-être plus mesurés, plus lucides, plus calmes par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est inquiétant quand Martigues Clermont, Ouais. Ça serait peut-être mon trio de dernière place.
Ouais, en tout cas, le Rodez Redstar, effectivement, sera chaud. Allez, 21e ouais. journée en national. Machul, on en parlait la semaine dernière. Hein. Bah, Machul encore pour le Paris 13 Atlético devant Dijon 0-0. Par contre, victoire de Versailles à Orléans 3-2. Nancy a battu donc Sochaux 1-0. C'était des affiches qui auraient fait le bonheur de la Ligue 1 il y a quelques saisons. Et puis Le Mans a battu donc Boulogne-sur-Mer 1-0. Donc Nancy en tête avec 39 points devant Boulogne sur mer 33 et donc troisième Orléans maintenant et Le Mans avec 32 points, donc on se bat pour j'allais dire la deuxième place derrière Nancy, et puis le Paris 13 Atlético qui est 12e avec 24 points alors que Versailles est toujours donc relégable hein. Versailles 15e avec 22 points devant Nîmes 16e 19 points et 17e Châteauroux 17 points.
Ouais.
Et puis un petit mot, ouais Stéphane, ouais.
Non bah, je disais l'Atlético Le Paris Atlético, c'est ça, oui.
Toujours match nul, voilà.
Ouais, c'est bien. Ils ont, comme on l'a déjà dit, on le répète, hein, ils ont appris de leur saison il y a deux ans, quand ils étaient descendus, montés et descendus aussitôt. Et ils ne refont pas les mêmes erreurs. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je mettrais bien une petite pièce sur Le Mans pour
beau retour du Mans. Beau retour du Mans.
Ils reviennent très bien. Ouais. Ils ont joué surtout à un match. Contre Boulogne, qui était un match très très important pour eux. Quoi. Oui, oui. Même si Boulogne est encore bien, Boulogne.
Oui.
Des cinq premiers, je crois, c'est les seuls qui ont un match de moins, qui ont déjà passé leur match sans jouer. Donc, un des deux du moins. Donc Boulogne est aussi dans le coup aussi. Hein. C'est sérieux, mais bon, je pense que Le Mans, ils sont pas mal avec Orléans qui va.
Ouais, c'est un match à trois hein, entre Boulogne, Orléans et puis Le Mans derrière Nancy qui semble donc au-dessus du lot quand même.
Ouais, voilà, exactement. Mmh. Je pense que la meilleure dynamique actuelle, elle est pour Le Mans.
Ouais. Allez, on finit avec les féminines, hein, comme chaque semaine, donc 15e journée, là, pas de surprise aussi, il y a eu aussi, comme en Ligue 1, beaucoup de scores fleuves, hein. Victoire du Paris FC devant Saint-Etienne 4-0, de Lyon qui a écrasé Guingamp 7-0, et du Paris Saint-Germain qui s'impose devant Montpellier 4-1, à noter la victoire de Dijon devant Reims 2-1, donc là, pas de changement, les 4 premiers restent donc aux 4 premières places, Lyon en tête à 43 points, devant le Paris FC 2e 36 points, 3e le PSG 35, et 4e Dijon 29 points.
Ouais, voilà, bah, c'est que, de toute façon, il n'y a plus qu'un intérêt dans le haut de tableau, vraiment, c'est qui, entre le Paris FC et le PSG, va terminer deuxième et qui va terminer troisième. Hein. Mais, donc voilà, ce qui risque aussi, il y a des chances que ça soit aussi la finale de la Coupe de France, hein, Paris FC, PSG, ça va être le match à la mode. Ça va être le match à la mode de cette fin de saison, mais on peut, si on veut ajouter un petit, on peut souligner quand même la dégringolade, la déchéance, le déclassement d'un club comme Montpellier, hein, ouais. Qui fait partie des clubs qui ont été champions de France et qui sont un peu à l'origine du foot féminin. Je veux dire, je crois que c'est Louis Nicolin qui a lancé en premier son cantia, qui a mis de l'argent dans le foot féminin. Et aujourd'hui, ils sont complètement à la rue. Oui,
ouais, bah comme pour l'équipe homme en Ligue 1, malheureusement.
Ouais, malheureusement. Ouais.
Merci Stéphane pour ce point une nouvelle fois très très complet. Donc rendez-vous la semaine prochaine, hein. Match retour donc de ces barrages de Ligue des Champions où il n'y aura pas énormément en tout cas de gros renversements de situation. Merci Stéphane.
Ouais. Allez, merci à vous.
À la semaine prochaine.
Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Voilà. Vous aimez le foot? Pas trop?
Oh, j'ai joué un peu au foot, ouais, mais enfin. Mais
c'est pas trop votre truc. C'est...
Ce qui me désole dans le foot, voilà.
C'est... Ouais, bah c'est tous à côté.
Voilà.
Eh oui. Voilà. Eh oui. Bah oui. Bah oui. On va garder que le terrain. D'accord.
C'est ça. Hein.
Et puis, ouais. Et puis, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi les autres sports. Et justement, on commence avec Alexandre. Et malheureusement, le zéro pointé de l'équipe de France de ski alpin au championnat du monde.
C'est ça, Philippe. On commence ce journal des sports avec le zéro pointé de l'équipe de France de ski. Les Bleus n'ont pas réussi à monter sur un podium lors des championnats du monde de Saalbach en Autriche. Ouais. Une première depuis 2005. Ouais. Dimanche, Clément Noël a abandonné en seconde manche après avoir réalisé le meilleur temps de la première. Quelle déception, franchement, c'est vraiment dommage.
À moins de un an des Jeux de Cortina d'Ampezzo.
Il faut relativiser. Oui, la dernière fois que la France n'a pas eu une médaille, qu'est-ce qu'ils ont fait l'année d'après?
Oui, il y a eu des médailles à Turin.
Ah, voilà, oui, voilà. C'est les Jeux Olympiques l'année prochaine, donc il faut être positif.
Il faut aussi un peu se ménager.
Mais ouais.
En revanche, justement, les championnats du monde de biathlon se poursuivent en Suisse à Lenzerheide. Et la poursuite femme a rendu son verdict avec la médaille de bronze de Justine Brézaboucher. Chez les hommes, Éric Perrault a décroché le bronze, sa première breloque individuelle dans des mondiaux. Quentin Fillon-Maillet a lui terminé sixième. Faut quand même rappeler aussi le 22e titre mondial de Johannes Bo, le Norvégien.
Qui va arrêter à quelques mois avant les Jeux. Ça, c'est assez incroyable.
C'est très surprenant. Ouais, mais 12e médaille d'or individuelle pour lui, qui fait de lui le biathlète le plus titré aux mondiaux, devant Ole Einar Bjørndalen et Martin Fourcade, tous deux bloqués à 11. Ouais. Donc c'est une grosse performance qu'il faut souligner.
Et puis, Alexandre, pour la relève, il y a eu le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. On a eu 19 médailles. Oui, je voulais juste rajouter ça. Donc
c'est bien, il ne faut pas les oublier.
Ouais. C'est vrai. Ce week-end, Vanessa, tu étais toi à la demi-finale où Grenoble a écrasé son concurrent. Mais là, il y avait
la
finale.
Ça, c'était au hockey sur
glace. C'était Grenoble-Rouen 9-0. Et puis ensuite, la finale à Bercy. Ouais.
À Bercy, justement, entre Angers et Grenoble. Les victoires des Angevins, 3 buts à 2. Avant de continuer, Philippe, aussi, faut tout de même rappeler que Edgar Goupillon a été désigné président de la COJOP.
Il cochait toutes les cases, Edgar Goupillon.
Donc pour les Jeux Olympiques 2030.
Demain.
C'est demain au Groupama Stadium de Lyon que tout ça sera officialisé. Présenté, mais voilà, donc c'est Edgar Goupillon qui a été désigné. En cyclisme sur piste, résultat des championnats d'Europe à Eusden-Zolder en Belgique et dimanche fructueux pour notre équipe de France puisque les Bleus repartent avec deux nouvelles médailles de bronze grâce à Marion Boras et Victoire Berthaud en américaine ainsi que Tom Derache en Kérin.
Ouais, donc ça fait 6 médailles au total.
6 médailles au total, absolument. Au rallye maintenant.
Au rallye, deuxième manche après le Monte Carlo, c'est la Suède.
Là c'est en Suède.
Un pays de neige.
Pays de neige, c'est vrai. Donc là, c'est la Suède et c'est Elfyn Evans, le Britannique, qui a remporté la course devant le Japonais Katsuta et le Belge Thierry Neuville. Au classement général, Elfyn Evans est premier avec 61 points. Sébastien Ogier est deuxième avec 33 points parce qu'il avait fait une très bonne première étape. Et Kali Rovanperä, troisième avec 31 points. Et Adrien Fourmeau, le Français, est à la sixième place avec 21 points. Mmh. En rugby, on jouait la 16e journée de top 14 et le Stade français gagne contre la section paloise 39-37. Ça va leur faire du bien après 3 matchs de championnat sans victoire. Et le Racing 92 perd à Vannes 30-25. Au classement, Stade français remonte un petit peu à la 12e place et le Racing est 13e. Donc ça va pas très bien pour nos clubs franciliens. Ouais. En basket, pas de championnat d'Hydroleague cette semaine. Par contre, il y avait la finale de Leaders Cup remportée par Le Mans devant Monaco 104-96. En handball, résultat de la 16e journée de championnat et aucune victoire ce week-end pour nos clubs franciliens. Même le PSG a été tenu en échec 27-27 contre Dunkerque. Ivry a perdu 35-25 contre Chambéry et Créteil perd face à Limoges 33-29. Au classement, le PSG est 2e à 1 point de Nantes 1er. Créteil est 12e et Ivry, comme on dit chaque semaine malheureusement, est toujours dernier. Ça sent très mauvais pour Ivry une fois de plus. On joue également la Ligue des Champions plus tôt dans la semaine et le PSG a perdu contre le Wisla Plock 31-28 et Nantes a perdu contre Kolstad 29-28. Au classement, le PSG est 4e du groupe A et Nantes 3e du groupe B. Chez les femmes, Vanessa, on en a parlé aussi tout à l'heure, le Paris 92 n'a pas joué en championnat cette semaine, mais les Parisiennes sont faites éliminer en C2 ce week-end après leur défaite face au club de Béra Béra 33-27. En Ligue des Champions, Brest-Bretagne a été tenue en échec face à Budugnost 23-23 et Metz contre Bistrita 34-28. Au classement, Metz est leader du groupe A et Brest-Bretagne est 4e du groupe B. Et on termine ce journal des sports avec le résultat de la 21e journée de championnat de volley. Le Plessis Robinson a perdu 3-2 contre Narbonne et Paris n'a pas joué ce week-end parce que, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, le championnat se joue à 13. Donc chaque semaine, il y a une équipe qui est exemptée. Là, en l'occurrence, c'était Paris qui n'a pas joué. Au classement, les Parisiens sont 9e et le Plessis est toujours dernier. Chez les femmes, Levallois-Paris a gagné 3-1 contre Cannes. Dans le haut du classement, c'est très serré. Le Pays d'Aix-Venelle est premier avec 47 points. Nantes, 2e avec 44 points. Vendôme-Nancy, 3e, 44 points. Et Levallois, 4e aussi avec 44 points.
Très bien.
Donc c'est très serré.
Voilà, merci pour ce journal des sports qu'on termine au sprint. Merci messieurs. Merci donc à notre ami Léo d'avoir été aux manettes. On finit comme chaque lundi en musique. Et je passe le témoin à mon ami El Hadji et toute la bande pour Au bout du foot. Allez, à la semaine prochaine. Salut.